Carnet de campagne avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr. France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Créer des opéras coopératifs, ouvrir la porte à une éducation artistique et culturelle et orienter vers des passerelles professionnelles. J'ai résumé en quelques mots les atouts du formidable outil que le Labo Opéra Oise, premier invité de cette édition. Bientôt le sapin de Noël et les traditionnels cadeaux. Reste qu'une partie de la population n'a pas toujours les moyens de partager ce plaisir d'offrir, tandis que d'autres personnes préfèrent le cadeau éthique et écologique. Et si possible, sans plastique. Je dis pas ça uniquement pour la rime. C'est dans cette perspective que Pierre, deuxième invité, a conçu ce qu'il appelle le jouet simple. Il nous en parlera tout à l'heure.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Renaud Boutin, bonjour.
Bonjour.
Ça va être difficile de résumer tout ce que vous faites, mais vous êtes à l'origine de très nombreux spectacles, de mises en scène, de spectacles lyriques en particulier. Vous travaillez régulièrement avec le groupe lyrique. Vous êtes passionné de pédagogie, de transmission, et on va parler du Labo Opéra Oise.
Exactement, du Labo Opéra Oise.
Oui, alors on entend laboratoire dans le Labo Opéra.
Exactement, c'est ça. C'est un petit mot valise qui résume bien notre projet, puisque il y a un laboratoire. C'est-à-dire qu'on fait de l'expérimentation, on essaye de faire des choses, et surtout, c'est une image que je prends souvent, c'est celle de l'horloge. C'est-à-dire que nous, ce qu'on essaye de proposer aux jeunes, c'est d'ouvrir l'horloge, de regarder le mécanisme, de regarder comment est-ce qu'un opéra se fabrique. Donc tous les petits rouages, tous les corps de métier, toutes les petites actions qui peuvent être faites pour faire fonctionner cette grande machine.
Créer un opéra avec ces jeunes, c'est une opportunité pour leur donner un accès à une éducation artistique et culturelle, mais leur participation, elle doit être durable, parce que créer un opéra, ça nécessite du temps, des moyens, beaucoup de main-d'œuvre. Vous les employez de quelle façon, à quel rythme ?
Alors en fait, on travaille chaque année avec une dizaine d'établissements professionnels et techniques du département de l'Oise. Et ils découvrent le projet à la rentrée de septembre. Et en fonction de leur période de stage, de leur parcours pédagogique, ils vont donc travailler jusqu'en mars-avril pour la création de cet opéra.
Et ils apportent une contribution technique, création des décors par exemple, mais ils apportent aussi une contribution artistique ?
Oui, exactement, parce que encore une fois, il y a tous les métiers qui sont impliqués dans la création d'un opéra, et nous on travaille avec eux comme si on travaillait avec des professionnels. C'est-à-dire que moi là, au lieu d'avoir une costumière, j'en ai une cinquantaine, et j'arrive en septembre, je leur présente le projet, je leur présente l'œuvre. Je leur explique en gros quels vont être les grands axes de la mise en scène. Et à partir de là, ce sont eux qui se mettent dans un premier travail de conception. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont inventer les décors, les costumes, les coiffures, les maquillages, mais aussi dans les sections professionnelles et techniques, ils vont inventer par exemple un plan de communication. Ils vont décliner les visuels qu'on a proposés à l'avance sous différentes formes. Et donc il y a à la fois faire appel à leur créativité et puis en même temps les mettre cette créativité dans un contexte professionnel. C'est-à-dire qu'on va leur donner tout de suite les échéances, il y a un cahier des charges. Et ça, c'est une expérience qui est vraiment très très forte pour eux.
L'œuvre a préparé l'élixir d'amour de Donizetti. Il y aura des représentations, 4 représentations en mars 2022 à Beauvais et à Marny-les-Compiègne. Je signale d'ailleurs, j'avais oublié de le dire, que la marraine du Labo Opéra Oise est Nathalie Dessay. Mais cela est le résultat aussi d'un réseau national, la Fabrique à Opéra.
Exactement, la Fabrique Opéra qui existe depuis 14 ans à Grenoble. C'est Patrick Souillot qui est à l'origine de ce projet un peu fou. Et ils ont déjà eu énormément de succès. Hein. Ils ont touché 120 000 spectateurs depuis la création. Depuis une dizaine d'années, en fait, la Fabrique Opéra essaime dans d'autres régions de France, parce qu'ils se sont dit qu'il n'y avait pas de raison que ce soit que les Grenoblois qui en profitent. Mmh. Et donc, chaque année, ils lancent un appel à projet. Ils proposent à des porteurs de projets de créer leur Labo Opéra dans d'une autre région.
Et chez vous, dans l'Oise, les collectivités ont suivi ?
Oui, globalement, les collectivités ont suivi. Il y en a certaines qui sont plus sceptiques, on va dire, mais on a eu des accueils en général très enthousiastes.
Pour un budget, normalement, l'opéra est coûteux. Vous vous en sortez avec une enveloppe de 300 000 euros.
Exactement, c'est ça. Alors, c'est sûr que c'est très, très serré. On est obligé de faire un petit peu avec beaucoup de débrouilles et beaucoup de bouts de ficelle. Mais moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que la vraie richesse de l'opéra, c'est l'humain. C'est les gens qui participent sur scène, en coulisses, les bénévoles. On a toujours besoin de bénévoles d'ailleurs, donc s'il y a des gens qui entendent et qui veulent rejoindre l'aventure, il faut pas qu'ils hésitent. Et c'est ça qui fait vraiment toute la richesse de l'opéra. Donc voilà, on travaille avec peu de moyens relativement. C'est néanmoins un moment très enchanteur en fait. C'est ça qui est beau aussi, c'est la magie de l'illusion, c'est-à-dire que on arrive à donner un peu l'impression d'avoir un grand opéra, d'être sur une des grandes scènes, et puis voilà, avec beaucoup de monde aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très enthousiasmant. Il y a un effet de masse et de foule sur scène qui emporte.
Si vous voulez connaître le réseau national, c'est lafabriqueopéra.com. Si vous voulez connaître davantage le Lab Opéra Oise, labopéra-oise.com. Merci Renaud.
Merci beaucoup.
France Inter, carnet de campagne.
Encore un mot et surtout une pensée vers les personnes qui n'auront pas de Noël cette année. En 2020, Bayard Jeunesse et la Croix-Rouge française lançaient l'opération nationale des boîtes solidaires. Le principe, c'est de remplir un carton à chaussures d'un vêtement chaud, un gant, un bonnet, une écharpe, d'un produit d'hygiène, d'un produit alimentaire, d'un jeu ou d'un mot de réconfort. Parmi les opérateurs locaux, il y a l'association basque Peña Lauaise, je le dis avec l'accent, 80, ça signifie, qui s'était engagée dès l'année dernière avec 15 000 visites sur son site, ce qui avait mobilisé 7 véhicules pour transporter les cadeaux. Or, cette année, une cinquantaine de points de collecte sont ouverts au Pays Basque et reçoivent vos boîtes de Noël jusqu'au 11 décembre avant distribution aux associations caritatives avant le 18. Les enfants ne sont pas les seuls bénéficiaires et le groupe de collecte des utopistes du 64 communique aussi sur les cartons pour hommes et femmes adultes. Leur message est direct, au moins c'est clair. Dans la boîte, vous mettez un truc chaud, un truc bon, un loisir, un produit de beauté et un mot doux. Pour toutes les régions, il est possible aussi de déposer les boîtes dans l'une des 1000 antennes de la Croix-Rouge jusqu'au 8 janvier si vous voulez participer à l'opération. Il y a des liens à nos pages d'émission. Pierre Véron, bonjour.
Bonjour.
J'ai dit il y a quelque temps quelques mots de votre invention, le jouet simple. Explication, et je partage complètement vos points de vue avec le gâchis de plastique, d'importation des jouets, des 100 000 tonnes de déchets de plastique par an issus de ces jouets pour plus de la moitié importés. Et vous savez de quoi vous parlez, parce que vous avez travaillé pendant 7 ans pour de grands groupes de production de jouets ?
Oui, tout à fait. J'ai travaillé pour différents groupes, aussi bien français que américains ou bien pour la distribution. Et du coup, depuis 8 ans, j'ai la chance en effet de travailler dans ce milieu qui est très très sympa, mais qui a aussi un impact assez conséquent sur l'environnement en effet. En fait, ce que j'ai pu constater moi au travers de ces différentes années, c'est que les jouets en fait souvent ont une durée d'utilisation limitée, à peu près 8 mois, selon différentes études. De fait, finalement, le jouet va devenir un objet à obsolescence programmée de par son usage. Parce que le jouet va rester là et l'enfant va grandir. Et donc, finalement, il va devenir, entre guillemets, un déchet. Et surtout, un déchet qui va être difficilement recyclable parce que la plupart des jouets aujourd'hui contiennent différents matériaux, de l'électronique, etc. Et donc on va avoir du mal à les recycler derrière.
Mais vous n'avez pas peur en créant votre gamme de jouets de vous confronter à des grands groupes qui ont les gros bras par rapport à vous ?
Alors oui, c'est sûr, mais ça n'empêche pas que les grands groupes font de très beaux produits, des jouets qui feront toujours rêver les enfants etc. L'idée, c'est aujourd'hui de pouvoir proposer une alternative et puis pourquoi pas demain de pouvoir aussi du coup travailler main dans la main avec d'autres acteurs. C'est plutôt un complément, je pense, que quelque chose de réellement concurrentiel ou en frontal, quoi.
Alors, vous avez dessiné une première gamme de jouets très simple que vous appelez le jouet simple. C'est une gamme de jeux d'éveil. D'abord, ils sont en plastique, mais plastique recyclable. Et les objets, les jouets sont consignés.
Exactement. Donc en fait, en partant des différents constats qu'on a pu évoquer juste avant, je me suis dit comment on pourrait réinventer le jouet et surtout réinventer la façon de les utiliser dans l'économie circulaire. Et en fait, le fait de les consigner permettait de boucler la boucle, si je puis dire. Donc nos produits sont monomatière, donc il n'y a pas de colle, pas de vis, pas d'autocollant, ce qui nous permet en effet d'avoir des produits 100% recyclables. Et donc, de ce fait, on s'est dit, voilà, bah, si on les consigne, on va permettre que ces produits puissent demain devenir la matière première d'un nouveau jouet. Et donc, chaque produit intègre dès son origine une consigne qui sera remise aux parents quand l'enfant ne jouera plus avec et qu'ils nous renverront les jouets.
Encore faut-il avoir des garanties qui vous le rendent ?
Alors, après, ça, c'est vraiment... chacun est libre, hein, de faire ce qu'il veut. La consigne n'étant rien obligatoire. C'est un service qu'on offre, qui est inclus dans nos produits. Et pour inciter à ce qu'il nous le renvoie, on propose en fait d'enregistrer son jouet sur notre site. Ce qui permet de ne pas oublier la consigne et que nous on puisse derrière suivre le produit et relancer les parents qui, d'ici 2-3 ans, auraient oublié cette consigne.
Ouais. Et vous avez testé ces jouets auprès d'un panel de parents ?
Exactement. On a testé nos produits, donc qui sont des produits très simples, hein, ce sont des grands classiques du jouet d'éveil, et on les a testés auprès de parents, mais aussi avec des professionnels donc de la petite enfance, et voir comment les enfants utilisaient ces produits, comment ils les prenaient en main, vers quels produits ils étaient attirés, les couleurs, etc., de façon à développer des produits qui soient utiles. Parce que ça, c'est vrai que c'est un autre point important, c'est l'idée de se dire... quitte à fabriquer des nouveaux jouets, bah, il faut que les enfants jouent avec.
Imaginez que dans quelques mois, le marché asiatique s'ouvre à vous. Que faites-vous ?
Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en plus, on a déjà eu des demandes.
Ah.
Et aujourd'hui, en fait, pour nous, c'est très important de pouvoir avoir un impact, on va dire, global au niveau de tout le cycle de fabrication des produits. Et donc, si demain, on a l'opportunité d'aller sur un marché asiatique ou même américain ou autre, l'idée serait plutôt de pouvoir fabriquer là-bas des produits qu'on commercialiserait là-bas. Donc l'idée, ce serait plutôt de remettre en place là-bas un écosystème et qu'on puisse gérer la consigne avec certains partenaires, parce que c'est pareil, mettre une consigne des produits qu'on enverrait en Chine, que la Chine nous renverrait, ce serait un petit peu ridicule, je pense.
Ouais. Une dernière chose, vous avez trouvé une unité de fabrication pour le jouet simple ?
Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir des super partenaires locaux et nos produits sont fabriqués à Oyonnax, dans l'Ain. Donc la fameuse Plastic Valley, où on a des vrais spécialistes de la fabrication du jouet. Et nos produits donc, sont dessinés par des designers à Nantes et puis fabriqués ensuite à Oyonnax, donc dans l'Ain.
Joli. Bienvenue au club du Made in France et des jeunes entrepreneurs qui inventent, innovent. Alors, le site, c'est lejouetsimple.fr. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Pierre.
Merci beaucoup, Monsieur Bertrand.
Carnet de campagne avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr.